Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre journal, le journal des auditeurs. Chaque jour, du lundi au vendredi, les auditeurs d'Africa Radio prennent la parole dans le JDA. Aujourd'hui, jeudi, dans le journal des auditeurs, nous attendons vos commentaires sur l'élection présidentielle au Togo. Le premier tour de l'élection aura lieu le 22 février prochain. La campagne s'ouvre aujourd'hui. Sept candidats s'affrontent, dont le président sortant, Faure Gnassingbé. Alors qu'attendez-vous de cette élection? Quels sont ces enjeux selon vous? Nous en parlerons normalement avec David Dossé, porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Pour participer, posez vos questions à notre invité, nous faire part de vos commentaires. Composez le 33 1 55 07 58 00, 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également nous écrire sur WhatsApp au 33 7 66 19 77 69, 33 7 66 19 77 69. Mais avant cela, direction le répondeur d'Africa Radio pour écouter une sélection de vos messages.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Allô, bonjour Africa Radio, bonjour à tous les auditeurs, c'est Monsieur Touré. Moi j'appelais pour féliciter la Cour constitutionnelle du Malawi qui a invalidé les résultats présidentiel récemment. Donc c'est pour franchement dire notre contentement et encourager surtout en Afrique de l'Ouest certaines cours constitutionnelles à prendre exemple sur eux. Si jamais il y a des irrégularités et des fraudes, qu'ils puissent avoir prennent leur courage à bras le corps et voilà, et invalider des fraudes. Voilà, c'est ce qu'on attend d'eux. Mais malheureusement, les cours constitutionnels en Afrique ne nous aident pas aussi dans la lutte pour installer la démocratie. Et c'est vraiment je trouve qu'il manque vraiment de courage.
Amis du JDA, bonjour. Il y a un fait qui me marque maintenant. Ça m'a d'abord marqué il y a 3 ou 4 ans de cela, toujours pendant les grèves. Bon, alors, là, la SNCF ou le STIF, je ne sais pas quoi, donc, ils sont toujours pressés de d'encaisser notre argent quand il faut aller acheter le ticket ou charger le Navigo pour le mois. On le fait à la caisse, devant les guichets. Mais quand il faut rembourser, on nous renvoie sur Internet. Il y a 3 ans ou 4 ans, on avait subi ce même problème. C'était difficile de rembourser. Les autres n'avaient pas obtenu le remboursement. Maintenant, le même désordre revient. J'ai même suivi sur France Info, ce matin même, ce matin du mardi 4 février 2020, que des amis, même moi-même j'ai suivi ça, mais beaucoup d'amis, moi je croyais que j'étais dans une erreur, tout ça, mais beaucoup d'amis n'ont pas pu être connectés au site de remboursement. Le site est très long, dédommagement, il y a de ceux qui écrivent avec un seul M, il y a de ceux-là qui écrivent avec deux M, ainsi de suite. Il y a beaucoup de... Quand tu dépasses cet obstacle-là, il y a un autre obstacle qui arrive. Quand tu dépasses cet obstacle, il y a un autre obstacle. Il y en a eu beaucoup. Donc, ils ne veulent pas rembourser. C'est ça le problème. Donc, mais bon. Quand il faut encaisser de l'argent, les gens le font très rapidement. Voilà pourquoi je conseille aux gens parfois de cafouiller dans ce pays. Parfois, il faut cafouiller les transports. Allez, point barre. Salut.
Allô, bonjour Africa Radio. Bonjour à tous les auditeurs. C'est M. Touré. Moi, j'appelais pour féliciter la Cour constitutionnelle du Malawi, qui a invalidé les résultats présidentiel récemment. Donc c'est pour franchement dire notre contentement et encourager surtout en Afrique de l'Ouest certaines cours constitutionnelles à prendre exemple sur eux. Si jamais il y a des irrégularités et des fraudes, qu'ils puissent avoir prennent leur courage à bras le corps et voilà, et invalider des fraudes. Voilà, c'est ce qu'on attend d'eux. Mais malheureusement, les Cour constitutionnelle en Afrique ne nous aide pas aussi dans la lutte pour installer la démocratie. Et c'est vraiment je trouve qu'il manque vraiment de courage.
Bonjour Julia, bonjour les invités. Madame, s'il vous plaît, c'est M. Diaby qui apparaît. Je voulais répondre, il y a un de mes compatriotes qui vient de dire tout à l'heure qu'il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Comment ça se fait que le média ivoirien ne divise pas les meetings du FPI? Ben, je me dis, ce monsieur-là, vraiment, il a une mémoire courte. Et quand ils étaient au pouvoir, ce qu'on voyait, c'était quoi? Est-ce que Gbagbo, l'opposant, est-ce qu'il montrait les opposants? Non. Toute la journée, c'était Gbagbo. Maintenant, lui, est-ce qu'il se rend compte? Ça fait une semaine que FPI est parti diviser un meeting de FPI. Ils ont chassé les journalistes. Parce que, pourquoi? Parce que le journaliste appartient à l'État. Vous avez vu, quand il vient s'arrêter ici, Africa numéro 1, pour dire, ouais, il n'y a pas de démocratie, on ne monte pas les meetings des FPI. Vous-même, vous chassez les journalistes. Après, vous venez pleurer pour dire, non, on ne monte pas votre meeting. Monsieur, soyez sérieux. Il y a démocratie en Côte d'Ivoire. Au moins, on monte PDCI, on monte les autres partis. C'est vous-même, vous êtes violent. Parce que, avec votre haine aujourd'hui, vous n'êtes pas capable même d'accepter les médias ivoiriens.
Bonjour, Madame Hartmann. Bonjour, les amis des JDA, le peuple africain, tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo. Nous disons bravo aujourd'hui à notre élite, à notre grand boxeur, Junior Ilunga, qui va combattre aujourd'hui pour devenir un champion. Le peuple congolais, nous tous, nous sommes derrière lui et nous allons vraiment le soutenir à 100% pour gagner ce combat qui va dérouler dans notre pays et à Kinshasa. Vive Junior Ilunga, parce que tu seras champion. Tout peuple congolais est derrière toi et nous sommes vraiment positifs et nous sommes vraiment content que nous savons que tu vas gagner ce combat. Vive notre pays, la République démocratique du Congo. Vive Junior Ilunga qui sera champion aujourd'hui. Le peuple congolais et le RCK est derrière toi. Merci à Aïko Mopongi, résistant combattant RCK.
Oui, ami du JDA, bonjour. Ah, Monsieur Sassou, bienfaiteur. Faiseur de paix, homme de paix. Oh, quelle rigolade, quoi. C'est le monsieur-là même qui martyrise son pays, son peuple, qui commence à prendre en tête la commission chargée de présider au destiné du Mali, de la Libye. Ben, dans quel monde se trouve-t-on? Lui, à l'extérieur, il a toujours cherché à montrer une image positive, alors que c'est un monsieur très, très mauvais, très mauvais. Il ne veut pas qu'on bouscule son pouvoir. C'est comme s'il avait eu un concours pour être président. Les autres ne comptent pas pour lui. Regardez ce qui se passe dans son pays, le Congo, vraiment. Hein? Et les travaux qu'ils font sont faits à la va-vite, à la hâte, les ponts qui se cassent facilement, tout machin, machin, l'argent qui est dépensé facilement comme ça, bêtement. Hein? Mais là, il dit que je suis le président du comité de pilotage pour la paix en Libye. Quelle paix a-t-il déjà acceptée dans son pays? Bon, cela dit, ami du GDA, je vous dis merci et je donne mon analyse à l'appréciation de tous et ceux qui connaissent bien le Congo Brazzaville. Allez, salut.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, ouverture de la campagne pour la présidentielle au Togo. La campagne électorale pour la présidentielle du 22 février prochain débute ce jeudi. 7 candidats sont en lice pour le scrutin, dont le président sortant, Faure Gnassingbé. Les autres candidats sont Jean-Pierre Fabre, ancien chef de file de l'opposition, Gabriel Messan, Agbeyome Kodjo, Georges William Assoumbong-Kouessant et Komi Wolu Aimé Gogué et Mohamed Tchassona Traoré. Alors le président sortant est en course pour un quatrième mandat à la tête du pays. Quels sont les enjeux de ce scrutin? Doit-on s'attendre à une élection ouverte et transparente? Nous en parlons tout de suite avec David Dossé. David Dossé, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes porte-parole du Fonds citoyen Togo Debout, c'est bien ça?
C'est bien ça, une organisation de la société civile.
Alors, bienvenue dans le journal des auditeurs, David Dossé. Le mouvement Togo Debout a dénoncé il y a quelques semaines des irrégularités autour de ce processus électoral. Quelles sont les irrégularités que vous dénoncez?
En fait, depuis que le pouvoir togolais organise des élections au Togo, nous n'avons cessé de dénoncer les irrégularités qui, en fait, entretiennent un système de fraude et qui permet au pouvoir de se maintenir. Et parmi ces irrégularités, nous avons notamment... les bourrages d'urnes, le fichier qui n'est jamais un fichier consensuel. Nous avons le fait également que pour ce qui concerne la transmission et la proclamation des résultats, cela se fait dans l'opacité la plus grande. Et de plusieurs missions d'expertise électorale étrangère, notamment celle de l'Union européenne, ont fait à maintes reprises des recommandations qui n'ont jamais été prises en compte par le pouvoir.
Alors, vous évoquez aussi la Cour constitutionnelle que vous qualifiez d'illégale. En quoi cette Cour constitutionnelle qui proclame les résultats définitifs est-elle illégale?
Voilà, c'est effectivement l'instance suprême qui encadre la mise en œuvre du processus électoral. Cette instance est illégale à plus d'un titre. D'abord, en ce qui concerne la loi organique qui organise le fonctionnement de la Cour, la nouvelle loi organique a été votée dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions de la Constitution. Je donne un exemple. La Constitution dit clairement qu'entre le dépôt de la proposition de loi organique et sa délibération, son adoption à l'Assemblée nationale, il faut 15 jours révolus. Il faut vraiment que les 15 jours passent avant que l'on ne puisse discuter autour de cette loi et que pour la loi organique, il n'y a pas de mesure d'urgence. Ça a été dit clairement dans la loi. Mais on se rend compte que, pour ce qui concerne en tout cas la dernière loi organique qui a été votée au Togo, elle a été faite dans des délais raccourcis et donc c'est une première entorse à la loi. L'autre élément qui est quand même important, c'est que lorsque les membres de la Cour constitutionnelle ont prêté serment, au lieu d'avoir 9 membres, comme cela est clairement dit dans l'article 100 de la loi fondamentale, il n'y a eu que 7 membres qui ont prêté serment. Le 2 membres qui devaient être désignés par le Sénat n'étant pas présents, nous estimons aujourd'hui que cette Cour ne répond pas aux dispositions de la Constitution. La question a été posée au gouvernement et en guise de réponse, le gouvernement a dit que oui, étant donné qu'avec 7 membres, on a un quorum, le gouvernement estime qu'on peut fonctionner. Nous avons pris l'avis de plusieurs constitutionnalistes étrangers, béninois, ivoiriens, et tous ont répondu en disant qu'il ne peut pas y avoir des mesures dérogatives pour ce qui concerne un acte de création d'une Cour constitutionnelle. Si la loi dit qu'il en faut 9, il en faut 9.
C'est très clair. Alors, malgré tout, Togo Debout n'appelle pas au boycott du scrutin, c'est bien ça?
Oui, effectivement, lorsque on examine toutes ces défaillances du processus électoral, toutes ces irrégularités qui, nous le savons, ne sont là que pour permettre la confiscation du pouvoir, la déduction première serait de dire on n'y participe pas parce que les dés sont pipés. Et je crois que ceux qui le pensent, personnellement, j'estime qu'ils n'ont pas tort.
Mais nous avons Tipi Achadam qui appelle du PNP, hein, qui appelle au boycott.
Tout à fait. Mais nous poussons un peu plus loin la réflexion. Nous disons qu'une période électorale au Togo, ça a toujours été une opportunité. Une opportunité pour mobiliser le peuple, une opportunité pour également défendre quelque chose. Et donc, nous pensons que si nous sommes en mesure de mettre en place une vraie organisation sur le terrain, nous pouvons réellement poser un problème au pouvoir en dépit du fait que les dés sont pipés. Faire en sorte que, nous l'avons compris, nous puissions protéger les procès-verbaux. C'est le nœud de l'élection présidentielle au Togo. Comment faire pour protéger le procès-verbal? Si nous y arrivons par une forte participation citoyenne, c'est pour ça que nous allons inviter les citoyens à se mobiliser.
Au sein des bureaux même, c'est ce que vous dites finalement.
Au sein des bureaux, absolument.
D'assister au dépouillement.
Absolument, assister au dépouillement et surtout ne pas commettre l'erreur que nous avons toujours commise. Parce que habituellement, les partis politiques nous demandent d'aller voter, nous le faisons. Les partis politiques nous demandent d'assister au dépouillement. C'est ce que nous faisons ensuite. Mais ensuite, une fois qu'on a fini d'assister au dépouillement, nous rentrons chez nous. Alors que c'est là où les choses se passent véritablement. Le procès-verbal qui suit le dépouillement, nous ne savons pas s'il est authentique, s'il répond véritablement aux résultats du dépouillement. Le procès-verbal, nous ne savons pas s'il est remis effectivement aux délégués de l'opposition. Et cela explique que très régulièrement, l'opposition n'est pas en mesure de défendre sa victoire. Cette fois-ci, le message sera clair à l'endroit de la population. C'est une lutte qui a été engagée depuis plusieurs décennies, avec une résurgence en 2017. La lutte n'est pas finie. Cette fois-ci, il faudra également la mener sur le terrain autour des bureaux de vote.
C'est très clair, David Dossé. Merci de cette introduction. On va tout de suite donner la parole aux auditeurs. 33 1 55 07 58 00. Hein, venez réagir sur les enjeux de ce scrutin présidentiel au Togo. Et on commence avec Alassane. Alassane, bonjour.
Oh, bonjour. Bonjour, madame Stéphanie. Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien, et vous-même? Ne quittez pas, Alassane. David Dossé, vous entendez bien notre auditeur? C'est bon?
Oui, c'est bon.
Merci. Moyen technique.
Bonjour, monsieur Alassane.
On vous écoute, Alassane. Vous dites, justement, vous êtes contre le boycott. Hein. Vous dites que la population doit se mobiliser. Hein.
Oui, la population doit se mobiliser. Ils doivent se mobiliser pour aller voter. Ils n'ont pas à boycotter parce qu'en fait, s'ils boycottent les élections, ben, le régime va continuer. Va continuer comme ça. Mais ils n'ont qu'à aller voter. Et puis, c'est le même cas qu'on a vécu en 2000 avec Abdou Diouf. La majorité des Sénégalais disaient non, ben, ouais, la majorité des Sénégalais disaient non, c'est déjà perdu d'avance. Non. Mais avec une mobilisation de la jeunesse, tout ça, surtout en 2000 au Sénégal, la chute d'Abdou Diouf, il y avait la presse privée sénégalaise qui avait joué un rôle très important pour ça. Ceci dit que les Togolais, en fait, doivent se mobiliser, aller voter, et puis surtout donner de l'importance à la presse. Parce que c'est, voilà, avant que le Conseil constitutionnel donne le verdict en 2000 au Sénégal, la presse avait déjà donné des chiffres. Ça joue aussi, ça joue aussi. Voilà, parce qu'il faut qu'on s'en sépare de ces régimes. Il faut qu'on s'en sépare de ces régimes. Enfin, ça peut pas. C'était le père, maintenant c'est le fils, demain ça sera le petit-fils. Non, ça peut pas continuer. Mais les Togolais ne doivent pas croiser les bras. Ils doivent aller voter.
Merci.
Voter. Voilà.
Allez-y, Alassane, vous voulez ajouter quelque chose peut-être?
Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, il faut que la population africaine comprenne avec Internet, avec les médias, on peut faire quelque chose sans affrontement direct. On peut faire quelque chose dans la voie, dans les procédures légales, quoi. Mmh. Tu vois, on peut obtenir quelque chose. Mais voilà, si Abdoulaye Wade, en 2012. Personne, il y a beaucoup de gens, ils n'y croyaient pas qu'il va perdre le pouvoir, parce qu'il reste l'homme politique le plus populaire au Sénégal. Ça n'empêche pas qu'il a perdu les élections. Mmh.
Voilà. Effectivement, c'est intéressant, Alassane, merci beaucoup. Alassane donne l'exemple du Sénégal, et vous évoquiez à l'instant, David Dossé, le côté protégeons les procès-verbaux, mobilisons dans les bureaux de vote, et en 2002, c'est ce qui s'est passé aussi au Sénégal, où il y avait des citoyens dans beaucoup de bureaux de vote qui ont finalement remonté les résultats. Est-ce qu'il y aura aussi un système, est-ce que Togo Debout essaye de faire un système comme ça, de faire remonter les résultats, de voir ses propres résultats, c'est ce que je voulais dire peut-être.
En tout cas, nous essayons de mettre en place un véritable front uni entre les six candidats de l'opposition. Ça, c'est le premier...
En venir sur la candidature unique de l'opposition.
La première ligne de défense. Et nous sommes en train de réfléchir avec le Conseil épiscopal justice et paix de l'Église catholique, qui a essuyé un énième refus de la part du ministre de l'administration territoriale. Mais en dépit de cela, nous estimons qu'il est du devoir du Conseil épiscopal du CICP de répondre aux préoccupations de la population et de voir comment mettre sur pied, si ce n'est pas une vraie observation électorale, en tout cas un vrai monitoring qui permettra d'obtenir les procès-verbaux. Et bien sûr, il y aura le soutien du Front citoyen Togo Debout qui s'inscrit dans la démarche. Et je remercie vraiment Alassane pour son appel. Et j'aurais tellement aimé que son appel soit entendu par les Togolais pour qu'ils puissent se mobiliser et participer au scrutin.
J'espère, et on remercie également Alassane. Bonne journée, Alassane. On se dirige du côté de Conakry. Écoutez Tierno. Tierno, bonjour.
Oui, bonjour à Stéphanie, bonjour à l'Afrique Radio.
Bonjour Tierno. Alors, vous nous appelez d'une ville qui est aussi un peu... où il y a des enjeux électoraux hein, dans quelques jours. Mais justement, quel regard portez-vous hein, sur cette élection au Togo ? Élection à deux tours, pour la, normalement, bah, peut-être, pour la peut-être. Première fois.
En tout cas, sur le papier, cette fois-ci, c'est accordé.
Voilà.
Oui, tout à fait. Là où il faut garder l'espoir, lorsque il y a des élections en deux tours, le président sortant, il a beaucoup d'autres candidats en face. Je pense qu'il faut espérer à un second tour qui est bien possible. C'est là qu'il faut rêver une alternance démocratique et pacifique dans ce pays. Mais je pense que vu le processus électoral depuis le début, j'ai écouté plusieurs candidats qui n'ont vraiment pas de l'espoir et qui n'ont pas vraiment convaincu par la gestion des processus électoraux qu'il faut améliorer beaucoup de choses. Je pense qu'il y a peu d'espoir et une alternance dans ce pays.
Peu d'espoir d'une alternance, vous dites.
Il y a peu de l'espoir pour une alternance dans ce pays parce que quand le processus n'est pas été respecté, on parle toujours ici en Afrique, la stratégie des présidents sont, on parle du chaos, des bourrasques d'urnes, de tout genre de fraude, ça existe dans leur manigance, c'est quelque chose qui est vraiment très regrettable, mais les élections, si étaient des élections transparentes, ça serait vraiment une très bonne chose, mais hélas...
Si vous n'y croyez pas trop, pas hein, si j'entends bien mon cher Thierno, hein, vous ne croyez pas trop à la transparence du scrutin. Je ne vous garde pas longtemps, parce qu'il y a énormément de bruit autour de vous hein, et on avait du mal à vous entendre. Hein, Thierno, voilà, peu d'espoir d'alternance. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est vrai qu'à l'analyse, on a le sentiment que rien n'ayant changé, on se dirige vers un processus comme à l'accoutumée, où c'est le pouvoir qui mène la cadence, qui dirige le jeu et qui, à la fin, proclamera sa propre victoire sans tenir compte des réalités du terrain. Mais comme je viens de le dire, pour nous, le véritable enjeu, c'est vraiment la mobilisation citoyenne. Si nous arrivons à mobiliser les citoyens pour qu'ils sortent en masse et qu'ils décident véritablement de protéger, pas seulement le dépouillement, mais le procès-verbal, je pense qu'on peut jouer un grand coup.
Alors on évoquait hein, tout à l'heure le candidat unique de l'opposition. Finalement, il y en a un qui a été désigné, mais il n'est pas le seul candidat de l'opposition. Et que pensez-vous de cette incapacité finalement à s'unir derrière un seul candidat? Vous étiez partisan à Togo Debout de la candidature unique.
Alors disons que nous avons suivi le processus, mais sans donner notre avis. Nous nous sommes dit que c'est surtout l'affaire des politiques, parce que nous estimons que et la candidature unique, et la candidature multiple, chacune des stratégies a ses avantages et ses points faibles. Alors, si aujourd'hui il y a 6 candidats de l'opposition qui veulent concourir, il est de notre devoir tout de même de leur demander de ne pas y aller en rang dispersé et surtout de constituer un vrai front uni, solidaire face au pouvoir en place. Et c'est ce que nous essayons de faire en disant par exemple que dans les différents bureaux de vote, les différents représentants des partis politiques d'opposition ou des candidats doivent travailler de façon solidaire. C'est-à-dire qu'ils auront pour mission, à la fin du dépouillement, d'avoir ne serait-ce qu'une copie ou un exemplaire du procès-verbal authentique. Et ça, s'il y a 6 représentants, je crois que ce sera beaucoup plus facile que dans le cas où il y aurait un seul représentant, parce que candidat unique. Voilà donc un avantage dû au fait qu'il y a plusieurs candidats qui peuvent coaliser leurs forces dans les bureaux de vote. Et donc, nous voulons véritablement travailler sur cet aspect.
C'est très clair. On redonne la parole aux auditeurs. Je redonne le numéro plutôt 33 1 55 07 58 00. C'est le numéro hein, pour participer, poser vos questions. On va écouter Simon. Simon, bonjour.
Et bonjour, Stéphanie. Merci de m'avoir donné la parole.
Bonjour,
Simon.
Salut
les auditeurs et votre invité.
Bonjour.
Ça fait plaisir de participer aujourd'hui à cette émission, ça fait longtemps.
Je sais que le Togo vous tient toujours très à cœur, Simon.
Oui, voilà. Et moi, premièrement, c'est l'armée qui est le problème togolais. Quelle que soit la mobilisation du peuple, la mobilisation, même si le peuple s'est mobilisé, tout ça, on a vu dans le passé, c'est l'armée le problème, qui est le problème du Togo. L'armée n'est pas du côté du peuple. C'est pour ça que le problème perdure. Durée. Aujourd'hui, votre invité, je vais lui demander tout simplement qu'est-ce qu'il demande à l'armée. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose au niveau de l'armée pour qu'ils soient neutres dans ce processus? Deuxièmement, la campagne qui se déroule actuellement fait pas le pouvoir en place. Je n'ai rien contre le pouvoir en place. Quand même, on est en 21e siècle. On ne va pas continuer à donner le riz l'huile au peuple togolais comme un projet d'avenir pour le peuple togolais. Ça devient insupportable. Ce n'est pas...
Simon, vous dites que les partisans du pouvoir de l'Unir, en tout cas, distribuent de l'huile et du riz, c'est bien
oui,
ça.
Les gens, ils n'ont pas d'école, Stéphanie. Mais moi, je ne mens pas. Et il faut aller voir ce qui se... Il n'y a pas de dispensaire. Il n'y a rien. Donc, on vient, on donne le riz aux gens. Mais quand même, ayons du bon sens. Au moins, on est en 21e siècle. On peut aller voir si les autres, comment ils font. On a été à l'école. On peut quand même faire des choses plus importantes que ça. On donne le riz aux gens. 5 ans après, on revient. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de... Moi-même, j'ai été, j'ai vu. J'ai vu de mes propres yeux. Il y a même des classes qui n'ont pas de taux. Il n'y a rien. Les taux, ils coûtent combien? On achète le riz, on va les donner. On commande des tricots. J'ai vu même l'effigie du président sur les chaussures. Mais ce n'est pas ça. Le Togo, il a besoin. Le Togo, il a besoin aujourd'hui de dispensaires. Il a besoin d'hôpital renommé. Et aujourd'hui, on continue toujours à utiliser l'hôpital des colons. Stéphanie.
Mais j'entends bien, Simon. Finalement, vous faites aussi le procès de l'actuel régime, si j'entends bien. Il y avait plusieurs questions, Simon. Restez à l'écoute. Je les reformule auprès de David Dossé. Simon évoquait le rôle de l'armée. Est-ce que l'armée est un point important dans la durée du régime?
Je crois que monsieur Simon a totalement raison. L'armée s'est toujours immiscée dans les affaires politiques du Togo. Et dans le mauvais sens, déjà depuis 1963 avec le coup d'État sanglant qui a entraîné la mort du président Sylvanus Olympio. Et récemment, en 2015, où nous étions allés aux alentours de la CENI avant la proclamation des résultats. Et clairement, il y avait l'armée qui était présente en vue de sécuriser entre guillemets la CENI et permettre à la CENI de donner les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Mais ce que nous disons, c'est que dans une lutte, il ne faut jamais se dire que tout sera servi sur un plateau d'argent. Je pense, M. Simon, que si nous devons attendre que l'armée togolaise vienne nous voir pour nous dire « Écoutez, cette fois-ci, c'est bon, nous proclamons notre neutralité, allez-y, nous risquons d'attendre des décennies et de ne jamais obtenir la liberté. » Ce que nous disons tout simplement, c'est qu'il revient au peuple de continuer de se battre. Il ne s'agit pas d'aller se battre à main nue face à l'armée togolaise, mais si la population dans sa grande majorité, se déploie dans les centres de vote, dans les bureaux de vote. Si cette population sécurise les procès-verbaux, ça va être vraiment le mot d'ordre de la société civile, et que ces procès-verbaux arrivent à bon port à plusieurs endroits que nous aurons indiqués, et que les résultats, d'une manière ou d'une autre, commencent à transparaître et à montrer les véritables tendances, l'armée peut protéger la CENI si elle le veut, mais l'armée n'empêchera plus le peuple togolais de disposer des vrais procès-verbaux, des procès-verbaux authentiques qui montrent la victoire de l'opposition. Parce qu'il faut le reconnaître, depuis toujours, nous n'avons jamais été en mesure de produire les procès-verbaux. Et aujourd'hui, nous avons compris que c'est l'insuffisance majeure de l'opposition dans sa stratégie de conquête du pouvoir par les urnes.
Simon évoquait la campagne, je crois qu'il y a ce qu'on peut appeler de l'achat de conscience, la distribution de l'huile et de riz. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment la télévision togolaise, hier je crois, rappelait à la télévision qu'il était interdit de distribuer de l'argent notamment.
Je crois qu'entre ce qui est dit par la loi, par les différents règlements et ce qui est fait par le pouvoir, il y a toujours un fossé. Nous l'avons rappelé tantôt avec la Cour constitutionnelle qui elle-même est anticonstitutionnelle. Le fait de dire qu'il y a achat de conscience par le parti au pouvoir au Togo, c'est presque un pléonasme, je vous assure. C'est ce qu'on vit tous les jours, Monsieur Simon, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les vrais enjeux de développement sont mis de côté et on préfère mettre de l'argent dans des futilités de ce genre. Mais c'est le Togo, il faut le savoir, la lutte elle est difficile. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se dire on abandonne cette lutte. Il faut aller au bout, il faut les affronter sur tous les terrains. Merci.
Justement, sur la question peut-être du bilan, Simon hein, faisait une description plutôt dure hein, de la situation actuelle au Togo. Du côté du pouvoir, au contraire, on se vante plutôt d'avoir relancé l'économie. Je crois que c'est le ministre des Droits de l'Homme, hein, Christian Trimois, hein, qui estimait que Faure Gnassingbé avait reconstruit politiquement le pays et relancé la dynamique hein, du développement. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il s'agit davantage de la communication?
Alors, selon vous. J'ai écouté l'interview de M. Trimua, c'était sur une radio-concert.
Oui, TV5 Monde. RFI, ah pardon.
RFI.
Il est passé.
Ou TV5 oui. Monde, je sais
plus. Il est passé aux deux.
Il est passé aux deux, voilà, je ne sais plus. Effectivement. Donc, et il y a d'abord un élément qui, pour la première fois, je crois, est sorti d'un représentant du Parti Unir et il s'était présenté à l'interview en tant que représentant du candidat Faure Sozinim Nanya Singbe. Il s'agit de quoi? Monsieur Trimua a dit que Faure Sozinim Nanya Singbe a hérité d'un pays socialement délabré, je crois, économiquement exsangue et c'est politiquement divisé. Et donc, c'est le
bilan du père.
Le bilan du père, ce qui n'a jamais été accepté par le régime. Et je suis content qu'après 15 années, enfin, quelqu'un comme Monsieur Trimua ou le gouvernement togolais reconnaisse que le père, qui fut un dictateur, a laissé le pays dans un état lamentable. Alors, on pouvait peut-être espérer que le fils, beaucoup plus jeune, qui avait peut-être envie de redorer le blason de la famille, allait tenter de mieux faire. Prenons le cas justement de l'économie, puisque c'est ce que vous avez évoqué. En arrivant tout à l'heure, je me suis permis de vérifier au niveau des rapports, notamment du Trésor public français qui établit des rapports sur plusieurs pays d'Afrique. Et le Trésor public français dit clairement qu'il y a eu un frémissement au niveau de la croissance, donc une très très légère croissance autour de 4,9%, mais cette croissance reste bien en deçà de la moyenne des pays de l'UEMOA. Mmh. Donc à mon avis, ce n'est pas une performance vraiment glorieuse. Ensuite, quand vous prenez le niveau d'endettement du Togo, en 2010, nous avons bénéficié de l'initiative PPTE, Pays Pauvres Très Endettés, qui a permis justement l'effacement d'une grande partie de la dette du Togo parce que la dette devenait insoutenable. Sept années plus tard, donc en 2017, de nouveau, la dette togolaise a grévé le plafond. Le plafond était de 70% du PIB. C'est une norme de convergence de l'UEMOA. Et en 2017, nous étions à 81,1%. Donc, voilà donc ce que M. Trimua appelle performance économique et qui, à mon avis, ressemble à autre chose qu'à une performance économique. On pourrait rentrer vraiment dans l'analyse un peu du système économique pour démontrer que la corruption gangrène toujours le pays, pour montrer que le secteur primaire n'a pas évolué, les paysans sont toujours avec la houe et la daba, et donc je ne pense pas qu'on puisse véritablement moderniser l'agriculture avec cela. Les industries de transformation n'existent pas, nous avons du phosphate comme matière première, mais nous ne produisons pas d'engrais. En ce qui concerne le secteur de services, on a un port qui ne tourne pas au maximum de ses capacités, etc., etc. Le Togo dispose de potentialités, mais malheureusement, ceux qui nous dirigent sont carents et n'arrivent véritablement pas à mettre ces potentialités au service du développement du Togo.
Bilan globalement négatif, hein, oui, si globalement je vous entends négatif. Bien. Quelques messages hein, que les auditeurs hein, nous envoient sur la page Facebook. Il y a Paul-Aimé Lisa qui lui est au Togo justement. Il dit en effet, il y aura beaucoup de choses à voir cette année 2020. C'est sûr et certain que le pouvoir en place va perdre la victoire, mais refusera comme d'habitude de la remettre. C'est ça une vraie... Et c'est, on va vers une crise post-électorale. On se souvient qu'en 2015, si je me souviens bien, Jean-Pierre Fabre, hein, candidat malheureux à l'élection présidentielle, avait renoncé à déposer des recours devant la Cour constitutionnelle. Là, il a fait un recours pour contester la validité de la candidature de l'opposition de Faure Gnassingbé, pardon. Est-ce qu'on va vers, d'une part, une crise électorale, comme le dit Paul-Aimé, et d'autre part, quel regard portez-vous sur la stratégie de l'ANC particulièrement?
Alors, est-ce qu'il y aura une crise post-électorale? Je ne saurais le dire. Peut-être pas dans l'immédiat, peut-être oui également, mais une chose est certaine, si jamais on proclame encore une victoire de M. Faure et Sozinim Nanya Singbe, le mandat ne sera pas de tout repos. Puisque nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous sommes déjà en train de penser à l'après 22 février et nous disons que Si, comme les choses semblent vouloir le démontrer, ils veulent encore imposer leur victoire, entre guillemets, il faudra qu'on puisse de nouveau s'organiser, continuer les manifestations, remobiliser la population et démontrer au monde entier que nous n'acceptons pas cette énième confiscation du pouvoir et que nous voulons définitivement y mettre fin. Donc ce ne sera pas un mandat de tout repos. Dieu seul sait ce qui va se passer le 22 février, mais s'il gagne, alors nous serons également dans les rues.
Il y a quelques temps, en 2017, hein, lors des grandes manifestations, hein, je ne vous ai pas laissé répondre sur l'ANC.
Tout à fait.
Ça vous arrangeait peut-être. Non.
En fait, je n'ai pas d'avis véritable à donner en tant qu'organisation de la société civile sur ce que fait un parti politique, mais je pourrais revenir sur la requête formulée par le candidat Jean-Pierre Fabre, puisque c'est le candidat qui a initié la requête. Oui. Et je voudrais aussi, si vous le permettez, préciser, cela n'a pas été encore beaucoup dit, préciser que la société civile également a introduit une requête au niveau de la Cour constitutionnelle pour demander à ce que la candidature de M. Faure et Sozimna Niasingbe soit annulée. Je finis avec la société civile avant de revenir à M. Jean-Pierre Fabre. Je disais donc que nous sommes basés sur ce qui s'est passé en 2005. En 2005, au Togo, pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu plusieurs coups de force. Un coup de force d'abord militaire, puisque le dictateur père est décédé le 5 février, donc hier ça faisait 15 ans. Et au soir du 5 février, les militaires sont venus à la télévision et ils ont dit qu'ils confiaient le pouvoir à M. Faure Niasingbe et qu'ils faisaient allégeance. Il y a eu un tollé international. Le lendemain, on modifie la constitution pour abaisser l'âge permettant d'être président de la République. On permet ensuite à M. Faure Niasingbe, qui était ministre dans le gouvernement de son père, dans la foulée, de redevenir député, poste qu'il avait perdu. Et donc, il redevient automatiquement, sans aucune élection, député. Du poste de député, il passe président de l'Assemblée nationale. Et du poste de président de l'Assemblée nationale, on lui demande d'assurer l'intérim du président qui était décédé. Et je précise que le président de l'Assemblée nationale, qui devait, en principe, selon les dispositions constitutionnelles, assurer l'intérim, lui, qui revenait de voyage, qui était sur un vol Air France, le vol a été détourné sur le Bénin et on lui a interdit de rentrer au pays. Donc, une succession de coups de force militaires, de coups de force constitutionnels et parlementaires.
Du coup, vous appuyez là-dessus pour contester la validité.
Absolument, puisque la constitution togolaise dit clairement qu'un coup de force est un crime imprescriptible. Et donc, nous appuyons sur cela, nous demandons à ce que la Cour constitutionnelle puisse invalider. Bien sûr, la Cour a refusé, mais nous n'allons pas baisser les bras. Il y a un collectif d'avocats nationaux et étrangers, africains et européens, qui est en train de se constituer pour revenir là-dessus.
C'est très clair. Alors, je buvais vos paroles, mon cher David, c'était très intéressant. On arrive déjà à la fin de l'émission. J'avais encore multiples questions à vous poser, et les auditeurs aussi d'ailleurs. M. Keïta qui dit: dans toute l'Afrique de l'Ouest, le Togo est le seul pays qui a un président militaire. Hein. Quoi qu'il arrive, le Faure restera président. Et puis il y a Junior qui disait: l'administration togolaise est dominée par la famille Niasingbe depuis plus de 4 décennies. Je ne crois pas à cette campagne. Merci beaucoup David Dossé d'être venu jusqu'à nous. J'espère que vous êtes porte-parole du Front Citoyen Togo Debout. Merci à tous, chers auditeurs, de votre participation. On se retrouve demain pour une nouvelle édition du JDA. Ce sera la Libre Antenne. Inscrivez-vous en laissant un message sur le répondeur d'Africa Radio. Prenez soin de vous. À demain.